Ah, est-ce qu'on est bien là?
Ouais,
bien.
On n'allumerait pas la radio?
Ouais.
Bon, on s'écoute Bartas alors, hein?
Ouais.
On s'écoute Bartas?
Ouais, on s'écoute Bartas.
On s'écoute Bartas.
C'est sur 107, ça?
Les matinales de Bartas, de 8h à 9h, sur le 107 FM.
Bon, allez, ambiance, bruit de plage.
Et bonjour à tous et bonjour à toutes auditeurs et auditrices et bienvenue dans les matinales de Bartas en ce merveilleux mercredi 25 avril 2018. Il est 8h, on est ensemble jusqu'à 9h. Je suis revenu de vacances après une petite semaine, donc il est temps de reprendre ces émissions à point d'heure. Mais c'est pas grave parce qu'il y a un magnifique soleil du coup maintenant, donc du coup ça va un peu mieux. C'est moins le genre je me lève, il fait nuit, je me balade dans la nuit, c'est l'horreur. Non, là il fait beau, déjà on voit des bonnes choses et ça me fait plaisir. Et ça me fait bien évidemment plaisir d'être de retour sur cette antenne et on va pas trop perdre de temps aujourd'hui puisqu'on a énormément de choses à voir. Alors tout d'abord on a re-rencontré en fait Monsieur Nollet. Alors Monsieur Nollet, si vous vous souvenez, auditeur auditrice, là il y a deux semaines on parlait du réseau de chaleur en fait simplement qui était prévu à Florac avec Monsieur Nollet qui n'était pas spécialement heureux de ce réseau de chaleur et qui organisait une journée avec un expert indépendant, une rencontre en tout cas à la Genette Verte qui s'est déroulée lundi 16 avril, c'est-à-dire pas ce lundi, lundi d'avant. On l'a rencontré pour savoir un petit peu comment ça s'était passé et où en était le projet, etc. Voilà, discuter avec lui de savoir où on en était. Et puis nous serons un petit peu plus tard avec Anne Portalier qui organise une grande rencontre samedi à la Canourgue justement autour du bien-être en général avec plein de conférences et plein de personnes pour faire des conférences, notamment une qui s'appelle Être bien physiquement et le son, donc moi évidemment qui m'intéresse beaucoup, est-ce qu'on en écoutant de la musique on se fait du bien au corps? La réponse est oui bien évidemment, mais ça fait toujours du bien d'avoir un expert peut-être ou un spécialiste pour en parler. Et puis en troisième partie d'émission nous serons avec deux musiciens qui jouent justement samedi pour leur concert et on en parlera juste après, ils seront en plateau pour en discuter avec nous. Comme je vous ai dit, on a beaucoup de choses à voir ce matin puisque je me suis dit que j'allais me préparer plein de choses pour mon retour, c'était toujours une bonne idée, mais je vous propose justement de commencer par Monsieur Nollet et de savoir un petit peu où en est le réseau de chaleur aujourd'hui et comment s'est déroulée la rencontre avec l'expert. Nous sommes de retour ce matin avec de nouveau Monsieur Nollet. Monsieur Nollet, bonjour.
Eh bien, bonjour.
Bonjour, re-bienvenue sur ce plateau. Alors, pour les auditeurs qui seraient un petit peu perdus éventuellement, il faut savoir qu'on vous a reçu il y a de ça deux semaines, à peu près, pour parler justement du réseau chaleur qui se développait à Florac. Vous nous parliez d'une rencontre qui allait se dérouler à la Genette Verte avec un expert, en tout cas une personne qui connaissait justement les problèmes des réseaux de chaleur indépendantes, qui s'est déroulée le lundi 16 avril. Alors, comment ça s'est déroulé cette réunion? Comment ça s'est passé?
Eh bien, écoutez, ça s'est très bien passé. En fait, au-delà de nos espérances, on a presque rempli la Genette Verte. Et j'ai d'ailleurs tout de suite remercié les nombreuses personnes qui sont venues. Ça prouvait leur intérêt à la chose et à la vie de leur commune. Donc, ça s'est très bien passé. Et il y avait Serge Védrine qui était sur l'estrade, Roland Plantin. Bon, Serge Védrine, tout le monde le connaît, hein, il a fait trois municipalités. Roland Plantin a fait le début de cette municipalité et puis il a démissionné. Et puis, il y avait notre intervenant, M. Dominique Aigret, c'est lui qui a parlé le plus longuement et qui a expliqué beaucoup de choses sur les réseaux de chaleur, la technique, les nécessités juridiques, les prêts, Bon, voilà, et ensuite il a répondu à beaucoup de questions de personnes.
Alors, justement, il y avait ces personnes qui étaient réunies pour parler de ça. La personne dont vous parliez, qui était là, que vous aviez fait venir, comment il a abordé le sujet, puisque lui, il connaît le réseau de chaleur. Comment ça s'est passé?
Ben, il s'est positionné en personne, justement, qui connaît la technique, qui a lui-même organisé un réseau de chaleur de 12 km et qui l'a couplé depuis un an maintenant avec du photovoltaïque pour préchauffer le liquide. Et donc, il ne s'est pas positionné en tant qu'opposant, je suis contre. Pas du tout. Le matin, on a pris nos jambes et on a fait la totalité du circuit des tuyaux. Il avait déjà une bonne partie bien examiné le dossier. Et on s'est rendu compte que le dossier était ni fait ni à faire. Il manquait énormément de choses. Et donc, le coût final de 3,8 millions était explosé complètement. Donc, on s'est rendu compte que faire que cette chose soit rentable était strictement impossible au jour d'aujourd'hui.
Donc, c'est comme on le précise, hein, quand on avait discuté avec l'interview d'il y a 2 semaines, le budget allait sensiblement être doublé, au moins au minimum, sur le budget prévu normalement. Et du coup, la réaction de la personne indépendante, ça a été la même, justement, de dire genre, c'est pas possible, ce dossier ne tient pas la route.
Voilà, tout à fait. Ouais, et on s'est rendu compte que l'entreprise qui a fait ce chiffrage et cette proposition, Kairos, ils nous ont pris 50 000 euros, 55 000 euros pour être précis, et ils nous ont livré un dossier en bois. C'est le cas de le dire. Pour une chaufferie bois, ça tombe très bien. Mais quand on a compté les mètres de tuyaux oubliés, on était à plus de 350 mètres. Ça fait 350 000 euros. Non, c'était vraiment un dossier qui était ni fait ni à faire. Voilà. Donc, Donc je disais, arriver à atteindre un équilibre financier est chose strictement impossible. Surtout que, et là tout le monde est resté quand même un peu quoi, quand on vend, on ne fait pas de chiffre d'affaires du 15 mai au 15 octobre, avec quoi on paye les échéances, les loyers mensuels? Avec quoi?
Ça, c'était la grande question, quand on ne chauffe pas, en fait, simplement, quand on ne chauffe pas Florac.
Exactement. Quand on ne chauffe aucune des entreprises ou des personnes raccordées, bon, on va vendre un peu d'eau chaude à gauche, à droite, mais à l'hôpital essentiellement. Et ça, ça ne fait pas tourner. Ça n'aide pas à rembourser un prêt qui va être autour de 20 000 euros. Ça, c'est sûr. Donc c'est impossible d'atteindre l'équilibre financier.
Alors, cette réunion, justement, elle s'est déroulée avec... Alors, la Jeunette Verte, quand même remplie, ça prouve qu'il y a un vrai intérêt, justement, de la populaire, en tout cas, de la part du peuple, de savoir ce qui va se passer. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et elle s'est déroulée en forme de questions-réponses aussi. Il y a eu des questions venant du public.
Ah, tout à fait, ouais. Il y avait un micro dans la salle et les gens pouvaient poser toutes les questions qu'ils voulaient. On a également proposé au maire de prendre le micro, ce qu'il a fait plusieurs fois. Et donc, c'était vraiment le débat, quoi. Tout le monde pouvait y aller de son interrogation. Et donc, c'était vraiment très, j'allais dire très serein, quand même.
Mmh. Oui, il y avait une bonne ambiance, justement, de débat. C'était pas la guerre.
Ah non, c'était pas la guerre du tout.
Ah, bah, oui.
Chacun a pu poser sa question. Et puis, voilà, donc, il nous a été reproché... à moi indirectement, d'être allé voir des gens pour leur dire « ne donnez pas l'autorisation de passage au tuyau ». Et ça, je l'ai nié parce que les gens qui ont un terrain et qui tout d'un coup se disent « bon, je vais être soit exproprié, soit je vais devoir une servitude pour faire passer des tuyaux », ils n'ont pas besoin de moi pour dire que non, ils n'en veulent pas. Parce qu'un jour, ils voudront faire un garage ou un agrandissement ou faire quelque chose, alors que là, ils ne pourront plus rien faire. Sans compter que les descendants, quand la personne donne son accord, eh ben les descendants, après, ils se retrouvent avec un terrain, une servitude qu'a demandé la mairie. Ils peuvent attaquer la mairie et demander des droits de passage à la mairie. Donc, vraiment, quand on fait un dossier comme ça, il faut maîtriser le foncier complètement. D'ailleurs, ça, l'intervenant, M. Aigret, l'a bien précisé sur son réseau de chaleur. 100% des passages des tuyaux, c'est du domaine public. Donc, il n'y a pas de souci ultérieurement à prévoir.
Alors, on a vu justement un petit peu le point de vue de l'indépendant et comment ça s'est passé lors de cette réunion. Du point de vue des élus, justement, qui étaient là et qui défendaient ce projet, eux, comment ça s'est passé d'avoir justement une personne indépendante qui leur dise « ça ne marchera pas ». Ils continuent à le défendre bec et ongle ou pas?
Les élus, il y en avait 5 qui étaient autour du maire. Ils n'ont pas ouvert la bouche de tout le débat. Il y en a un qui était en haut de la salle qui était apparemment, enfin, il était contre ce projet. Donc, il a parlé très librement et très justement, en fait, en se rendant compte lui aussi que c'était pas raisonnable. Mais les autres, ils ont été d'aucun secours à Monsieur le Maire. D'ailleurs, le maire s'est certainement retrouvé pendant ces quelques années bien seul pour soutenir ce dossier, parce que c'est pas un dossier facile. Donc les élus qui étaient là, il n'y a pas un seul qui a parlé, qui a ni posé une question, ni rien dit. Donc voilà, mais bon, on ne peut pas leur en vouloir, c'est quand même un domaine extrêmement technique, et ils ne savent pas, Ce que je leur reprocherais, par contre, c'est d'avoir voté pour à chaque fois, et de ne pas avoir dit, tout simplement, je ne sais pas, c'est un domaine qui me dépasse, je ne peux pas dire oui ni non, je ne sais pas, je m'abstiens. Et ce n'est pas ça qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont systématiquement voté dans le sens de Christian Huguet, ce qui l'a sans doute un petit peu trompé lui-même aussi. Donc voilà pourquoi ce projet a duré aussi longtemps.
Alors maintenant, une fois ça fait, une fois qu'il y a eu cet échange entre indépendants, élus et population qui était là pour voir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui devient ce projet? On en est où en fait là aujourd'hui?
Le maire a dit après qu'il allait abandonner le projet parce que de toute façon il ne pourrait pas obtenir les DUP dans un délai lui permettant de toucher les subventions et que donc le projet ne pourrait pas voir le jour.
Donc c'est un abandon selon lui parce que justement il y a eu cafouillage, il n'y aurait pas les subventions à temps. C'est pas parce que le projet est mauvais, en tout cas, où on pourrait se dire, tiens, en fait, il ne convient pas à la population de Florac, c'est parce que, en fait, il n'est pas réalisable économiquement comme on l'avait prévu.
Oui, on peut dire ça, et on peut dire que, ça fait une porte de sortie pour Christian Huguet, comme ça, il n'aura pas les subventions, donc il peut dire que le projet ne verra pas le jour. Mais dira-t-il un jour, oui, c'était un mauvais projet ? Parce qu'on n'a pas les sous et ça n'intéresse pas la population. Ça serait la logique de dire ça. Personne n'est infaillible, tout le monde peut se tromper et tout le monde peut croire vraiment à quelque chose de bien utile et être sincère. Et puis se rendre compte au fil des mois et des années que finalement ça ne recueille pas le suffrage de la population. Donc il faut mieux quelquefois renoncer, c'est beaucoup plus sage que de persister bêtement. Alors le fait que la mission aidée aussi est conclue à ça, ça prouve aussi que la mission aidée, c'est pas des bonnets, hein. Ils ont très bien vu que si on se jetait là-dedans, on ferait plus rien d'autre.
En tout cas, merci de nous avoir fait un petit retour sur la suite de ce projet. Puis on va voir ce qui va se passer, en fait, simplement à partir de maintenant. On n'a plus trop d'autre choix que d'attendre de voir s'il est abandonné ou pas.
Non, tout à fait. Je ne me rappelle plus si je l'ai dit à la fin ou en tout cas, je comptais le dire, mais ce n'est vraiment pas quelque chose qui est contre le maire. Tout ce qu'on a entrepris et tout ce qu'on a mis en œuvre comme argument, c'est pas contre Christian Huguet. Encore une fois, je le redis bien clairement, c'est contre un projet qui n'était pas adapté à Florac. Point barre. C'est pas contre lui. C'était ni politique, ni rien du tout. Maintenant, on verra évidemment ce qui va arriver.
En tout cas, merci pour la précision, c'est toujours utile. Et merci de nouveau d'être venu autour de ce plateau, Monsieur Nollet.
Allez, merci. Et puis à une autre fois, merci à vous.
À bientôt. Et voilà, auditeurs, auditrices, un petit rappel, en fait, simplement, une petite suite de ce qui s'est passé. On rappelle bien évidemment que ce plateau est ouvert, comme d'habitude, à la mairie et à tous ceux qui voudraient éventuellement donner un autre son de cloche, pour l'instant, qui n'ont pas répondu à notre invitation. Voilà. Mais ça fait toujours du bien de se mettre un petit peu au courant. Je vous parlais vite fait d'un autre truc. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin, mais il y a quelque chose qui est quand même important qui s'est passé, puisque j'ai l'habitude de faire les infos du matin et de donner pas mal de mauvaises nouvelles. Alors, quand j'en trouve une bonne qui me fait très très plaisir, j'en parle. Puisque peut-être vous l'avez vu passer comme ça au hasard, vous vous êtes dit mais qu'est-ce que c'est que de quoi on parle ? Vous connaissez bien évidemment le groupe Massive Attack, vous connaissez sûrement à mon avis l'album Mezzanine sorti en 98, qui est quand même un des grands albums de trip-hop et qui a vraiment mis Massive Attack sur le devant de la scène, je crois que c'est peut-être leur album le plus vendu, qui est aujourd'hui encodé en ADN. Oui, vous ne rêvez pas, il n'y a aucun problème. Non, le Montreux Jazz l'avait fait en fait l'an dernier pour Tutu de Miles Davis and Smoke on the Water des Deep Purple. C'est maintenant Massive Attack qui annonce le stockage de son album Mezzanine sur de l'ADN artificiel avec une méthode développée à l'EPFZ. Alors c'est une première, cet encodage est effectué pour les 20 ans de la sortie de l'album le 27 avril 1998. Un archivage dont l'espérance de vie se compte en siècles, voire en millénaires, contre quelques décennies sur un CD. Bah oui, parce que si on y réfléchit, encoder quelque chose sur un CD comme ça, c'est un risque des 1 et des 0. Simplement, le CD, vous prenez, vous le cassez, bah vous l'avez plus, en fait, l'album. Et si tous les CD du monde se cassent, et bah on les a plus. Et si jamais l'internet plante ou les stockages plantent, il est possible qu'on perde aussi l'album. L'ADN, et ben c'est encodé pour des plombes et des plombes et des plombes et des plombes pendant les siècles et les siècles et les siècles qui dureront en fait. Et je trouve ça assez fascinant comme manière en fait d'imprimer la culture. L'équipe de Robert Grass et de Reinhard Eckel a dans un premier temps modifié la bande-son numérique binaire, c'est-à-dire une suite de 1 et de 0 comme vous avez dans n'importe quel programme et n'importe quel logiciel, pour l'adapter au code ADN constitué de 4 bases A, C, G et T afin d'obtenir une quantité de données gérable. Le procédé de compression Opus a été utilisé pour arriver à un volume de 15 MB avec une qualité finale supérieure au MP3. Ça c'est quand même assez génial. Bon, le format MP3 est un format absolument affreux au niveau du son, mais c'est pas grave. Une entreprise américaine est actuellement en train de fabriquer 920 000 courtes molécules d'ADN sur lesquelles sera stockée Mezzanine. Et je trouve ça vraiment génial, auditeur, auditrice, parce que là, pour le coup, comment garder une part de la culture, en fait, simplement, puisqu'on sait qu'on a perdu un nombre d'œuvres littéraires depuis le début de l'Antiquité, depuis le début de l'écriture. On a perdu des œuvres littéraires dans les vestiges du temps ou même simplement les catastrophes ou les choses comme ça. On peut perdre beaucoup de choses, donc comment sauvegarder une bonne fois pour toutes des choses importantes, et même pas forcément des choses importantes, des choses qui font partie de l'histoire, que ce soit l'histoire de la musique, l'histoire de la littérature, l'histoire du cinéma ou que sais-je encore, d'autres histoires, comment le faire ? Eh bien, peut-être le stocker sur ADN. Moi, je trouve ça assez génial. Et avant de retrouver, du coup, Anne Portalier pour parler de la conférence qu'elle organise à la Canourg ce samedi, je vous propose d'en écouter un petit peu du Massive Attack. Parce que même si c'est pas très adapté pour le matin, c'est adapté pour tout. Le morceau qui vient justement de Mezzanine, personnellement, le morceau préféré de cet album pour moi, c'est Inertia Creeps. Et on se retrouve juste après avec Anne Portalier. À tout de suite. morceau Initial Creeps de Massive Attack, donc du coup de l'album Mezzanine, qui est donc l'un des premiers albums à être encodé sur internet depuis peu. Si vous avez pas, si ça vous dit rien cet album, je vous engage vraiment à l'écouter parce que c'était quand même un des gros morceaux de l'année 98, enfin, et une des grandes avancées du trip-hop en général, surtout une avancée sur la scène populaire. Et puis si vous l'avez déjà écouté mais que vous avez envie de le réécouter, vous êtes les bienvenus parce que ça fait toujours du bien. Comme je vous le disais en début d'émission, auditeurs et auditrices, nous sommes en direct avec Anne Portalier, pardon, excusez-moi. Anne, vous nous entendez ?
Oui, très bien, bonjour.
Bonjour Anne, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, on va discuter alimentation et moyens naturels de santé, des sujets qu'on adore ici pour le coup, puisque ce samedi 28 avril, de 10h à 20h à la Canourgue, vous organisez toute une journée de conférences, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait.
Alors, dans quel cadre, pourquoi en fait cette journée est-elle organisée aujourd'hui, ce samedi, avec plein de conférences qui vont suivre ? Comment ça s'est déroulé ça ?
Alors en fait, on est parti avec Christiane Alonso, hein, qui travaille chez Damazel, le salon de thé de la Canourgue. On aime beaucoup l'alimentation santé. Donc moi, de mon côté, ça fait partie de ce que je préconise à mes clients. Et puis elle fait un menu végétarien, elle commence à faire du sans gluten, sans laitage, etc. Et puis on s'est dit, mais pourquoi ne ferions-nous pas une conférence pour faire partager un peu toutes ces informations aux personnes qui ne sont pas forcément au courant de ces autres formes d'alimentation. Et voilà, c'est parti comme ça. Moi, j'ai contacté certains intervenants que je connaissais plus ou moins dans le domaine de l'alternatif. On connaît pas mal de personnes qui interviennent là-dedans. Et puis voilà, j'ai 4 personnes qui ont répondu présent. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles ont toutes une approche différente mais complémentaire, justement de l'alimentation et ou des moyens naturels de santé.
Alors, justement, vous le disiez, vous-même, vous êtes en tout cas naturopathe hygiéniste.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que ces deux mots ensemble ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, je suis d'abord naturopathe. Donc, naturopathe, c'est une approche alternative de la médecine, une médecine naturelle, hein, comme on peut dire. On utilise des moyens naturels de santé, des plantes, des huiles essentielles, l'alimentation, etc. pour soigner les gens. Et puis moi, je me suis spécialisée en hygiénisme. Donc l'hygiénisme, c'est une approche très simple de la santé qui consiste à partir du principe que le corps est autoréparant et que si on a des symptômes, si on a des pathologies, c'est lié au fait que le corps a été déséquilibré. On l'a déséquilibré de par notre hygiène de vie, notre alimentation, le stress, notre façon de voir la vie, etc. Et donc ces symptômes sont liés à une cause. Et le travail de l'hygiéniste, c'est un peu un travail d'enquêteur puisqu'on va aller chercher quelle est la cause. Comment ça se fait que le corps ce déséquilibre et qui manifeste donc ce déséquilibre au moyen de différents symptômes.
Le corps est autoréparant, c'est-à-dire qu'on a tout déjà en fait en nous pour aller bien, en fait, si je traduis un petit peu, si je vulgarise.
Exactement, en fait, on voit bien si on se coupe, si on se blesse, il suffit d'attendre quelques jours et ça cicatrise tout seul. Donc on voit bien que cette capacité du corps à s'autoréparer existe. Maintenant, faut-il encore le lui permettre ? Et des fois, malheureusement, le corps ne peut pas s'autoréparer parce qu'on l'en empêche, sans le savoir, avec ce qu'on vit, la façon, les aliments qu'on peut manger, le stress qu'on peut se donner. Donc l'intérêt de l'hygiénie, c'est de remettre le corps dans un contexte qui va lui permettre de s'auto-guérir.
Alors, toute la journée du samedi, justement, donc ça sera à la salle des fêtes de la Canourgue, dès 10h et jusqu'à 20h, 4 conférences vont un petit peu s'enchaîner. La première commence dès 10h30, qui s'appelle « État de santé et conscience ». Qu'est-ce que c'est ? Par quoi on va attaquer cette journée ?
Alors, état de santé et conscience, mais là, on part du principe, justement, que beaucoup de maladies, de pathologies sont liées à la façon dont on voit la vie. C'est-à-dire que si on est pessimiste, si... on voit la vie de façon négative, si on se stresse sur certaines choses, et si on a peur, beaucoup de peur aussi, eh ben on va déclencher au niveau du corps des symptômes, on va déclencher des douleurs. Et donc c'est très intéressant de se rendre compte que c'est pas, les maladies ne viennent pas comme ça par hasard, il y a des raisons, et notamment la conscience, c'est-à-dire la façon dont on a conscience des choses. Donc c'est Anne-Yvonne Dezet qui va parler de ça, et elle va essayer de faire partager comment fait-on, qu'est-ce qui bloque en fait notre énergie, qu'est-ce qui bloque à l'intérieur du corps, comment on peut faire son bilan de santé par rapport à cela, et puis découvrir la solution pour justement se soigner ou se guérir par rapport à notre approche de la vie, notre vision de la vie.
Parce que quand on parle d'état de conscience, on peut lier beaucoup de choses avec, c'est-à-dire le stress, la manière de se voir actuellement, ce qu'on vit, tout ça fait partie de l'état de conscience ?
Tout à fait. Nous ne sommes pas qu'un corps physique. Nous avons aussi des émotions, nous avons un mental, nous avons aussi un esprit, on peut dire. Donc, il faut les chercher aussi plus loin que le physique. Souvent, c'est des émotions, soit c'est nos croyances qui sont un peu limitantes, nos principes, des fois, qui nous rigidifient un petit peu. Et puis aussi, dans notre façon de voir qui je suis et qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre. Il y en a aussi des fois des questions existentielles qui peuvent aussi jouer dans notre bien-être.
Et ensuite, à partir de 14h, alors ça, moi, c'est celle qui m'intrigue énormément puisque c'est la conférence qui se nomme « L'alimentation physique et sonore ». C'est fait par Renaud Rollman, qui est conférencier, photographe, mais aussi musicien. Oui. Et l'alimentation physique et sonore, alors moi, quand on dit sonore en travaillant dans une radio, ça me fait tiquer pour le truc. Donc, qu'est-ce que l'alimentation sonore, c'est quoi? C'est la musique qu'on entend? C'est ce genre de choses? Qu'est-ce que c'est cette conférence?
Ce sont toutes les ondes, les vibrations et le son, puisque en fait nous sommes une vibration à la base, nous sommes des atomes, des électrons en mouvement, et nous nourrissons finalement que de vibrations, même si on ne le voit pas forcément, mais quand vous mangez même un morceau de viande ou un légume, tout ça n'est que vibration. Donc forcément ce qu'on met dans notre corps, les vibrations qu'on met dans notre corps vont agir sur les vibrations de notre propre corps. Donc c'est très intéressant de se poser la question. Qu'est-ce que je mets dans mon corps? Donc aussi bien au niveau alimentaire, donc là c'est très intéressant de manger plutôt des aliments crus ou des aliments qui ont des vibrations élevées. Mais il n'y a pas que l'alimentation matérielle, il y a d'autres types d'alimentation, dont l'alimentation vibrationnelle, l'alimentation sonore. Et Renaud Rullman va donc parler en quoi cette vibration, ce son, cette musique a une capacité de nous nourrir. Il y a un effet positif et négatif, notamment en fonction du type d'onde, du type de fréquence. Alors, on distingue les fréquences en 432 Hz et en 440 Hz. Hein, avant, la musique était faite en 432 Hz et ça a changé dans le courant du XXe siècle, en 440. Et certains spécialistes expliquent qu'elle est beaucoup moins adaptée à notre fréquence naturelle. Donc, il va beaucoup parler de ça. Et puis, même aller jusqu'au fait que... Il y a une fonction médicinale aussi, une fonction qui peut nous apporter vraiment de la guérison en fonction du son que l'on va écouter et de la vibration qu'il y a autour de nous. Mmh. C'est vraiment très très intéressant et on voit l'apport de la musique d'une façon encore plus différente, quoi, puisque nous sommes vibrations et on doit vraiment être vigilant au type de vibration que l'on va écouter, que l'on va faire entrer dans notre corps. Mmh.
Tout à fait.
C'est une alimentation.
Tout à fait vrai, auditeur, auditrice, vous le savez très bien que je suis un adepte de métal et après un concert, j'ai souvent mal au lombaire et mal au dos à cause des vibrations, c'est un fait. Donc ça sera de 14h à 15h30. À 16h commencera la troisième jusqu'à 17h30, alors là qui a un titre un petit peu plus clair, « Démédicaliser notre vie grâce aux moyens naturels de santé » par Bernard Clavière. Là, je pense que ça, on comprend de nous-mêmes ce que ça veut dire, mais si vous pouvez nous en donner quelques mots.
Alors oui, donc... Bernard Clavière, donc c'est notre intervenant qui est le plus connu entre guillemets dans le milieu alternatif, puisqu'il a écrit notamment un livre qui s'appelle « Et si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps », qui est d'ailleurs un best-seller. C'est un hygiéniste, comme on dit, on parlait tout à l'heure naturopathe hygiéniste, et lui, jusqu'à 18 ans, il avait de très gros problèmes de santé, et il a décidé qu'à 18 ans, il ne verrait plus un médecin. Donc, il s'est penché sur les lois naturelles, comment fonctionne mon corps, etc. Et il s'est guéri tout seul. Et depuis, il partage les moyens naturels qu'il a trouvés pour se guérir. Et pour ça, comprendre, en fait, on ne peut pas faire l'économie d'apprendre un minimum quelles sont les lois naturelles. On a un corps, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il faut lui apporter. Il est beaucoup plus adapté à manger tel type d'aliment que tel autre, etc. Donc quand on commence à apprendre ça, à comprendre le fonctionnement, à comprendre qu'un symptôme, c'est une solution que va trouver le corps pour compenser un déséquilibre, on a une autre vision un petit peu de la maladie. Et du coup, on peut avoir aussi des solutions différentes de celles qu'on nous propose habituellement dans l'approche classique de la médecine, quoi. Donc, il va beaucoup parler de ça, Bernard Clavière, dans sa conférence, et c'est extrêmement intéressant. On va notamment parler du jeûne, puisque le jeûne est une thérapie qui est extrêmement intéressante aussi pour se soigner, pour se guérir.
Et on va finir à 18h et jusqu'à 19h30 en parlant de la nourriture d'aujourd'hui entre science et tradition. Et je trouve ça intéressant puisque, en plus, dans toute cette conférence, vous allez me dire si je me trompe, Anne, mais il y a une volonté, en fait, simplement de parler du style de vie aujourd'hui, de comment on consomme des choses aujourd'hui. Là, on parle d'aliments, mais on pourrait très bien parler de médias et de nouvelles technologies. Et là, la nourriture d'aujourd'hui entre science et tradition, qui sera faite par Jacques Antonin, ça va être une manière aussi de présenter, en fait, peut-être certaines choses qu'on a oubliées ou de se mettre en garde de certaines choses qui arrivent trop vite aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Alors, Jacques Antonin, qui est un peu notre voisin, puisque lui, il habite dans le sud d'Aveyron, hein, pas loin de Saint-Afrique, donc il a eu aussi un parcours un peu atypique et il est retraité, mais il a fini, il était boulanger, meunier boulanger. Et lui, il s'est beaucoup passionné justement sur ses alimentations. L'évolution de l'alimentation, notamment du blé et des laitages, puisqu'on se rend compte maintenant que le blé et laitage ne sont pas forcément bénéfiques pour la santé, alors qu'ils ont quand même participé à notre évolution depuis plus de 10 000 ans. Donc, comment ça se fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi sont-ils devenus potentiellement dangereux ? Et aussi, comment peut-on faire pour en consommer quand même, mais en choisissant bien la qualité et la façon dont ça a été préparé ? Ça ne fera pas forcément le même effet sur le corps. Donc ça, il va nous expliquer un petit peu aussi les besoins essentiels que l'on a dès notre arrivée sur Terre au niveau de la nourriture. Quelle est la nourriture idéale ? Qu'est-ce qu'on devrait mettre dans notre corps, les nourritures matérielles ? Et il va parler évidemment de tout ça avec une approche scientifique moderne, qui s'inspire du bon sens, de la nature, de l'équilibre, mais également de l'apport des anciennes traditions. Donc c'est très intéressant aussi, il va vraiment rassembler ces deux approches pour bien comprendre. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir, mais on va mieux comprendre pourquoi on entend tout et son contraire, des fois, sur les différents médias, différentes revues. Moi, je vois les gens que je rencontre me disent, mais on ne sait plus qui croire, on entend tout, on ne sait plus est-ce qu'il faut manger du gluten, est-ce qu'il ne faut pas en manger, des laitages ou pas, les légumes, cuits, crus, etc. Donc, voilà, c'est très intéressant aussi d'avoir l'approche de Jacques Antonin qui va justement rassembler un petit peu ces différents points de vue. Et avec une approche scientifique, on va mieux saisir mais qu'est-ce qu'on doit manger, en fait. C'est un peu le but de cette conférence.
Et cette conférence qui sera donc le samedi 28 avril de 10h à 20h à la salle des fêtes de la Canourgue. On n'a pas précisé, mais l'entrée est à 5€ pour toutes les conférences.
Oui.
En tout cas, Anne, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin pour nous en parler. Et puis, auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à y aller justement pour comprendre, ne serait-ce que savoir un petit peu, ou en tout cas à avoir des nouvelles connaissances justement sur tout ça. En tout cas, merci beaucoup, Anne, d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.
Bonne conférence. Au revoir.
Merci.
Et voilà, auditeurs, auditrices, c'est comme je vous le disais, nous avons deux musiciens qui vont nous rejoindre en plateau incessamment sous peu. Alors, c'est Anne et Raphaël du duo Vojao, dont on va parler, puisqu'ils organisent eux aussi un concert samedi 28 avril. Il va falloir faire des choix au bout d'un moment, auditeurs, auditrices, on ne peut pas tout faire. Ça sera à 18h, ça sera à l'église des Bondons. Mais je vous propose d'en écouter un tout petit peu avant, et puis on va se retrouver juste après avec les deux musiciens. Donc, c'est le groupe Vojao, et je vais très, 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 très mal prononcer le titre de la musique. Voilà, alors, El Bint El Shalabiya. C'était complètement faux, je leur demanderai de le reprononcer après. À tout de suite.
On vient d'écouter Vojao, groupe qui jouera du coup à l'église des Bondons ce samedi 18 avril à 18h. Et surtout, qui est avec nous en plateau. Vojao, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, bonjour Raphaël.
Bonjour.
Bonjour. Et bonjour Anne.
Et bonjour.
Et bonjour. Alors, merci beaucoup d'être avec nous ce matin en plateau. Est-ce que, alors, l'un de vous, Anne, peut-être, puisque c'est ta voix qu'on vient d'entendre là, est-ce que tu peux nous redire le nom du morceau que j'ai complètement massacré ?
Binti Shalabiya. Non, ouais. Ça allait à peu près. Hein.
Bint El Shalabiya. Allez, à tout de suite. Non, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va parler justement musique, un petit peu du monde et d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prêts pour nous en parler un petit peu ?
Et oui.
Eh bah oui. Eh bah on y va alors.
J'ai quelques questions à vous poser.
Bien, maintenant je pose une question.
L'interview des Bartas. Alors Vojao, auditeur, auditrice, peut-être pour ceux qui parlent une certaine langue, ça vous dit quelque chose, mais Vojao, qu'est-ce que ça veut dire ?
Donc on s'est inspiré d'un mot espéranto qui veut dire voyage. Et on cherchait un nom pour le duo et on n'avait pas envie de choisir une langue ou une autre parce qu'on fait depuis le début, on fait une musique un peu de différents bords, différentes origines. Donc on est un peu sur le mélange des cultures, le métissage et on s'est dit pourquoi choisir une langue plutôt qu'une autre. On avait envie de trouver une langue qui rassemble différentes origines, différentes cultures et l'espéranto, c'était un peu ça l'idée. Donc ça nous a plu.
Et c'est ce qui se passait en fait à l'époque de la Méditerranée il y a quelque temps finalement. Il y avait des mots en commun dans plusieurs langues, en fait. Donc, c'était l'idée, parce que là, c'est ce qu'on propose, c'est surtout de la musique de la Méditerranée et de l'Orient. Et c'est pour symboliser, en fait, finalement, des frontières plus ouvertes que ce qu'on nous dit actuellement.
Alors, utiliser l'espéranto, justement, pour parler du nom du groupe et utiliser le mot voyage, ça, comme vous l'avez dit, ça a son importance. Mais vous jouez des musiques justement autour de la Méditerranée. Quel type en fait ? Quel pays on explore en fait avec Vojao ?
Alors, on explore en ce moment un répertoire autour de... Donc, il y a beaucoup Grèce et Turquie. Donc, c'est des pays qu'on a... dans lesquels on a passé du temps, et aussi la musique séfarade et arabe. Voilà, c'est un peu les quatre piliers, grec, turc, arabe, séfarade.
Quatre piliers qui parlent plus ou moins à tout le monde, sauf pour moi, alors peut-être ignorant que je suis, séfarade, je ne sais pas ce que c'est.
Séfarade, ce sont les juifs qui vivaient dans l'Espagne médiévale, donc du temps d'Al-Andalus et de l'Empire arabe, et ils ont été expulsés en 1492, suite à un décret de la reine catholique quand les catholiques ont repris possession de l'Espagne. Et en fait, à partir de ce moment-là, ils se sont dispersés un peu dans tout le bassin méditerranéen. Donc, il y en a une partie qui sont partis vers le Maghreb, une autre dans tout ce qui est l'ex-empire ottoman. Donc, ça fait tout le tour de la Méditerranée un peu. Et ils ont emporté une partie de leur culture et aussi se sont laissés influencer par les cultures de chaque pays. Donc la langue a évolué, la musique aussi. Enfin, du coup, c'est passionnant.
En fait, on explore la face cachée de l'identité européenne qui est en fait très liée au monde oriental.
J'ai beaucoup aimé ta conclusion. C'est genre, en fait, c'est passionnant. Et c'est exactement ça, justement, comme je disais. Explorer la face cachée, c'est-à-dire explorer l'histoire qu'on a peut-être un petit peu oubliée.
Et oui, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'identité. Et bon, comment dire, on parle beaucoup d'identité. Et du coup, on oublie en fait que dans l'identité, entre guillemets, européenne, il y a beaucoup d'influences qui viennent d'Orient, en fait. Donc, en Grèce, parce qu'en Grèce, du coup, y a eu l'Empire ottoman, et pendant 4 siècles, du coup, il y a eu un mélange de cultures, et aussi en Espagne. Et bon, la Grèce et l'Espagne, c'est lié aussi du coup, au sud de l'Europe, et ça, donc à la France, à l'Italie, et tout le reste. Donc voilà, c'est vrai qu'on oublie un peu de nos jours avec les questions de migration, et qu'en fait, on est lié. Voilà.
Et bah, puisque tu l'abordes justement, ça, on va l'aborder. Voilà, justement, voilà. Le Vojao, est-ce que ça, alors je suppose que ça a été inspiré peut-être par ce qui se passe en général dans le monde, même si ça a été créé avant ce qu'on est en train de vivre en ce moment, l'une des plus grosses crises humanitaires. Voilà. Mais est-ce que ça a pris une autre tournure en fait, simplement avec ce qui se passe ?
Honnêtement, oui. Honnêtement, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. En plus, bon, là, c'est pas marqué, mais moi, mon nom de famille, c'est Ben Youssef. Du coup, j'ai des vieilles origines kabyles. Et donc, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que, j'ai l'impression que, en parlant d'identité, cette identité pure, rêvée, en fait, elle n'existe pas. En fait, pour moi, c'est un pur mensonge. Bon, moi je me considère avant tout comme un enfant de la terre, de la vie, voilà, après, mais quand on parle d'identité plus précise, on voit que c'est vraiment un brassage et que quand on étudie un peu l'histoire des musiques, on se rend compte qu'il y a même les musiques traditionnelles qui sont censées venir très précisément d'un endroit très localisé, en fait, elle a des influences d'ailleurs, en fait. Ça n'existe pas une musique qui est complètement. C'est toujours un mélange, c'est toujours une rencontre, c'est toujours. Quand on étudie la musique, c'est très 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 clair, même d'un point de vue musicologique. Bon, voilà, donc là, on parle de sujet, mais je pense que ça représente beaucoup d'autres sujets, en fait.
Alors, j'ai l'impression que dans Vojao, justement, alors on vient d'avoir des dates, en fait, on va dire historiques. On a eu justement une volonté qui est derrière. Moi, j'ai envie de demander, est-ce que ce projet, ce groupe, il est venu de tout ça ou est-ce qu'il y a vraiment un clair départ à la base? Vous disiez que vous êtes allé, en fait, vous avez voyagé dans ces pays. Qu'est-ce qui vous a dit à un moment, tiens, si on jouait, chantait ensemble et si on s'intéressait justement à cette culture-là, à ces musiques-là? Et même assez longue.
Moi, j'ai toujours eu personnellement un attrait pour ces musiques-là, enfin voilà, de Balkans, Orient, ça m'a toujours attiré. Et puis, on a eu envie on connaissait déjà un ou deux morceaux, un morceau turc, un morceau grec, voilà, appris plus ou moins avec des amis d'ici. Et on a eu envie d'aller explorer plus précisément, d'aller vraiment dans ces pays et puis de se plonger dans les cultures de là-bas. Donc, on est allé faire un voyage en Italie, Grèce et Turquie. On est surtout resté en Grèce, où là, on a...
Pas de favoritisme.
On a presque ça, pris racine.
Merci.
Voilà. Et là-bas, on avait d'abord un morceau qu'on a partagé un peu avec les Grecs de là-bas qui nous demandaient, ils voyaient qu'on avait des instruments, donc ils étaient demandeurs. Et au bout d'un moment, ils nous faisaient tout le temps chanter le même morceau. On s'est dit, bon, là, il faut vraiment qu'on en apprenne d'autres. aidés aussi par les gens qu'on a rencontrés là-bas, qui nous ont aiguillés, qui nous ont aidés aussi sur la langue, la prononciation. Enfin, voilà. Je pense surtout à Yanis, qui est du coup un ami qu'on a rencontré là-bas et qui, depuis, est venu vivre dans les Cévennes. Donc, comme quoi, voilà, c'est bien encore le mélange des cultures. Et voilà. Puis en Turquie aussi, des belles rencontres qui nous ont amenés à prendre d'autres morceaux. Et puis toujours dans la rencontre avec les gens. Donc, ça a été des moments très forts. Et on a ramené tout ça dans nos valises en rentrant dans les Cévennes.
Parce que ce que vous jouez, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, est-ce que c'est des morceaux que vous pouvez trouver actuellement? Est-ce que c'est des morceaux plus traditionnels dans le sens où on l'entend?
C'est des morceaux traditionnels. Ouais.
Et alors les recherches justement pour trouver ces morceaux, parce que des morceaux traditionnels, mine de rien, ça demande quelques recherches pour les trouver, pour les apprendre, pour les jouer. Comment ça se passe?
Et du coup, comme elle a dit, il y a eu aussi une bonne part de comment les gens nous ont appris qu'on était sur place. Tout simplement, ah, vous connaissez ce morceau, ta-ta-ta, ah ouais, d'accord, on l'apprend, voilà. Et ensuite, nous, après, on s'est... disons que quand on est revenu ici, c'est comme s'il y en avait, effleuré un tout petit peu un monde qui est immense, en fait, et qu'on continue d'ailleurs à explorer. Et on a été aussi aidé par des... moi, personnellement, je prends des cours avec un maître palestinien de oud à Lyon, à Villeurbanne, qui m'aide à emmagasiner, à apprendre les particularités de ce répertoire. Et Anne aussi, je pense qu'elle...
Oui, de mon côté, moi, je prends des cours à l'IIMM, donc c'est l'Institut International des Musiques du Monde, et c'est près de Marseille. Et c'est un institut qui a ouvert il y a peu de temps et qui est un projet vraiment exceptionnel. Et il y a vraiment, du coup, un lien avec des maîtres, des gens qui sont dans cette culture et qui peuvent la transmettre, qui sont un peu les garants d'une tradition. Donc, moi, je prends des cours avec Françoise Atlan, qui est donc une référence en musique séfarade, et avec Maria Simoglou en musique grecque. Donc ça, c'est vraiment le rapport avec des personnes comme ça qui va aider à approfondir. Et puis, elles ont vraiment la connaissance de à la fois le contexte culturel, les particularités techniques de chaque répertoire. Enfin, c'est, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est passionnant.
Et avant les voyages et avant tout ça, est-ce que c'est d'abord vous qui vous êtes intéressé à la musique, comme toi par exemple Raphaël avec le oud, ou toi Anne aux langues, ou c'est l'histoire qui vous a intéressé à la musique? Ça s'est passé dans quel sens?
Une question.
Moi, pour ma part, je peux juste dire quelque chose d'assez simple, c'est qu'avant de rencontrer Anne, moi, je faisais pas du tout ces musiques. Je faisais plus du jazz, du rock, voilà. Je m'y suis mis un peu comme ça, avec le voyage. Et c'est en fait aussi en découvrant, en rencontrant les gens sur place, en voyant comment ils vivaient, en fait. C'est pas quelque chose de superficiel pour eux, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est lié à leur vie, à leur conception de la vie. Voilà. Et je me suis rendu compte finalement, ça m'a interrogé sur mes propres racines méditerranéennes, donc autant de Naples que la Kabylie. Et finalement, je me suis rendu compte que j'allais finalement sur un chemin qui me ramenait à des choses un peu oubliées. Quoi. Et la Grèce, c'est un bon exemple parce que c'est vraiment un pays qui est à cheval entre l'Occident et l'Orient et qui, dans sa culture, a en fait des éléments très orientaux et très occidentaux. En fait. Du coup, c'est un peu aussi ce qu'on essaye d'explorer avec ce duo.
Les morceaux que vous avez choisis justement de jouer au final, est-ce que c'est des morceaux à volonté, on va dire? Justement, tu parlais tout à l'heure, Raphaël, du fait qu'on oublie peut-être un petit peu l'histoire en général et les racines véritablement profondes de ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce que c'est des morceaux à volonté, on va dire, un petit peu révolutionnaires, ou les morceaux que vous choisissez, c'est quoi?
Dans ces morceaux traditionnels sur les thématiques, c'est beaucoup des chansons d'amour, en fait, quand même.
Oui, alors il y a plusieurs... Il y a ça, des chansons d'amour, mais en fait, c'est aussi des chansons d'amour profanes, mais qui évoquent aussi parfois le sacré.
Tout à fait.
De manière assez
symbolique.
Ouais. Mais il y a aussi, notamment une qu'on fait, qui s'appelle Per Clivanis,
qui est
un morceau un peu
aussi
plus moderne, mais qui est issu de cette tradition, qui est un peu révolutionnaire, oui, parce que qui parle d'un vent de changement qui est en train de souffler sur la société, pour il y a un peu cette thématique aussi parfois.
Alors je reviens juste sur ce que tu as dit, préciser un petit peu, morceau d'amour profane, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire c'est des termes qu'on utilise, et profane, ça veut dire c'est l'amour, on va dire, charnel.
Ah oui, tout à fait.
D'un homme pour une femme, une femme pour un homme. Ou d'une femme pour une femme.
Scandaleux, complètement scandaleux. Anne, j'ai une petite requête, éventuellement, parce que, en fait, moi, je me rends compte que les quatre langues dont tu parles, c'est des langues à l'oreille, dont je ne suis pas sûr. Éventuellement, l'arabe, j'ai déjà pu en entendre en général, et je peux me dire ça à l'oreille. Mais turc, grec et, j'ai peur de très mal le prononcer,
Séfarade,
voilà, tout à fait. Je ne sais pas du tout ce que ça donne à l'oreille. Est-ce qu'à tout hasard, tu pourrais nous en faire des petits exemples?
Alors, Séfarade, puisqu'on en parle, c'est très proche de l'espagnol. Parce que c'est une langue qui est un mélange, en fait, d'hébreu et d'espagnol du 15e siècle. Par exemple, Hija mia mi querida, voilà, no te eches a la mar. Alors là, ceux qui parlent vraiment espagnol ont remarqué que j'ai dit Hija mia et non Hija mia.
Ouais.
Donc ça, c'est une particularité du ladino, de la langue séfarade. Le J se prononce je, voilà. Mais autrement, on va dire, même pour un espagnol, enfin, s'il le lit, il peut en comprendre une bonne partie, je pense. C'est très proche de l'espagnol, avec des petites nuances comme ça qui sont des traces de l'histoire, en fait.
C'est plus des petites nuances dans la prononciation, du coup?
Oui, et même dans les mots aussi.
Dans le
vocabulaire. Oui, oui. Mais c'est quand même c'est la langue judéo-espagnole.
D'accord.
Voilà. Le grec.
Alors, le grec, je suis vraiment très intrigué parce que je me suis rendu compte de ça il y a quelques années, que si on me dit, tiens, essaye d'imiter la langue grecque ou quoi que ce soit, même en faisant des clichés, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ressemble le grec. Donc, je suis très, très intrigué.
Donc, je vais dire un extrait du morceau Perclivanis. Mia nichta tharsia po makria, aeras perclivanis. Nami Boris nakimithis, Boris ne...
Orea.
Voilà.
Policalana.
Voilà.
Donc, Nami la Selenica.
Ligo.
C'est une radio Bartas.
D'accord. Oui, ça, j'ai compris.
En plus, radio Bartas, il y a presque la sonorité As qu'on retrouve beaucoup, radio Bartas.
L'arabe, on en a entendu un extrait tout à l'heure. Le turc,
Merhaba
Nasilsin.
Chuck Guzel.
Chuck Guzel-Berkez. ça, c'est le début de la méthode à 6000.
Vas-y, alors, un petit peu.
Un morceau turc.
Derek Elior Dere.
Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur, aldı da bir yağmur. Katibimin setresin uzun, setresin. C'est dur de le faire sans chanter, en fait. Ouais,
alors, auditeurs, auditrices, juste que je vous explique un petit peu ce qui se passe, c'est que tous les deux, ils se regardent et ils se parlent. Tu sais, ils ont vraiment des arguments l'un envers l'autre. C'est genre, oui, non, tout à fait. Et moi, à côté, genre, oui. Alors, juste une petite question par rapport à tout ça. Je suppose que, en fait, chanter, ça ne suffit pas simplement d'apprendre de la phonétique. Il y a une compréhension, tous les deux, puisque là, vous parliez, justement. Mmh. L'apprentissage de toutes ces langues, en fait, justement, à côté, ça doit demander un temps fou. Parce que c'est une autre forme de former des phrases, même des.
Bien sûr.
Enfin, ouais. c'est...
Alors, pour ce qui est de vraiment parler ces langues, bon, moi j'ai des bases voilà, en grec et en turc parce qu'on a passé du temps là-bas, qu'on s'est un peu penché justement avec la méthode assimile. Après, en arabe, j'essaie de prononcer du mieux que je peux les morceaux, mais je ne parle pas arabe. Hein, et il reste le séfarade que j'apprends. Voilà, j'ai des rudiments en espagnol. Mais de toute façon,
On connaît le sens des chansons.
Voilà,
parce
je connais le sens des chansons, mais je ne dirais pas que je peux parler. D'ailleurs, je ne sais pas si le ladino, il y a très peu de personnes qui le parlent encore. Mais...
C'est une langue morte, comme on dit.
Ce serait à vérifier quand même. Peut-être qu'il y a encore des gens qui le parlent.
On a eu la chance quand même d'avoir des gens qui nous ont traduit ce qu'on chante quand même. C'est-à-dire qu'on sait,
oui, ça de toute façon. Moi, ce qui m'intéresse quand j'apprends un nouveau morceau, c'est vraiment de connaître la thématique, de quoi ça parle et comment je vais pouvoir nourrir mon interprétation. Donc, j'ai vraiment besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, c'est vrai que quand on était dans cette démarche en Grèce et en Turquie, c'était ce qu'on demandait en premier aux gens. Ce morceau, de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors que ce soit en passant par l'anglais, si on avait pas, ou en grec, si on échangeait comme on pouvait avec les personnes, c'était de quoi parlent les morceaux. Et après, dans le travail de toute façon que je fais avec mes enseignants, donc à l'IIMM, c'est vraiment, quand on aborde un morceau, on aborde la prononciation. Et on essaie de traduire en rentrant vraiment dans la langue, les spécificités, les différents niveaux d'interprétation aussi.
Je voulais juste faire une petite, un petit lien avec ce qu'on vient d'écouter. Donc juste avant, sur les sons et ce qui fait les vibrations. Donc elle parlait de ça.
Oui, tout à fait, l'interview d'avant.
Exactement.
Oui.
Et du coup, j'aurais pas pensé forcément à ça, mais du coup ça m'y a fait penser. C'est-à-dire que toutes ces musiques-là, en fait, c'est issu d'un vieux fond de musique byzantine, ottomane, arabe, qui explore ce qu'on appelle les makams. En fait, les makams, c'est les modes traditionnels arabes, turcs. Et ces makams, en fait, de manière plus traditionnelle, il y avait des médecins, en fait, qui soignaient les gens, en fait, avec les makams. Donc, en fait, c'est vraiment il peut y avoir un côté thérapeutique avec ces mots-là, en fait, et avec les instruments qu'on les joue, avec le oud qui est quand même un instrument très très vieux, quoi, très vieux. Du coup, on peut notamment dans peut-être ce qu'on va finir avec les taksim, il y a quelque chose d'assez méditatif, lent, qui peut aider à guérir, je pense, pour des personnes qui sont aussi liées à ces cultures. Après, pour les autres, je sais pas.
Est-ce qu'on est sensible à ce genre de médecine?
Je pense que c'est universel.
Donc pour citer Anne, en effet, tout ça est absolument passionnant. Le concert est du coup samedi 28 avril, c'est à 18h, donc c'est à l'église des Bondons. Voilà. Toi, Raphaël Oud, à nos chants.
Voilà.
Tu chantes aussi, Raphaël?
Je chante un tout petit peu, ouais, sur les refrains. Voilà.
Et il joue pas que du oud aussi?
Je joue du bouzouki grec et je vais jouer aussi du saz turc.
D'accord,
voilà,
pour faire accompagner
différentes sonorités. Voilà. Moi, j'accompagne aussi avec un peu de percussion et de mandoline à l'occasion.
Donc, il y aura aussi un petit couscous fait par notre ami Abel Tanan.
Et les bénévoles, toute l'équipe du foyer rural des Bondons. Donc, ça s'annonce très, très bon.
C'est exactement clair. Ça. De toute façon, le couscous, c'est fait par Abel. on sait que c'est bon, hein, on va pas se le cacher. Samedi 28 avril à 18h, puis couscous à 19h30. L'entrée concert, 7 euros, 6 euros pour les réduits, et puis le repas à 14. Voilà.
C'est ça.
C'est exactement ça. C'est tout ce que vous m'avez donné sur la jolie feuille qui est là. D'ailleurs, moi aussi, je fais du son. Alors, on va s'écouter une petite dernière chose pour finir, justement, que tu m'as apporté, Raphaël. Qu'est-ce que c'est ?
Donc, c'est ce que j'ai essayé un peu de parler. C'est que parfois, dans l'introduction des morceaux, en fait, de manière traditionnelle, on fait ce qu'on appelle un taxim. C'est-à-dire, c'est une introduction. Non mesuré, ça veut dire que le musicien il est libre, il n'y a pas un rythme précis en fait. C'est une exploration autour du silence et de l'espace. Et c'est dans un makam particulier, c'est le makam du morceau. Donc le makam c'est le mode, comme dans notre musique orientale, dans notre musique occidentale, il y a aussi des modes. Et donc là c'est un makam ferafeza.
Eh bien, on va s'écouter ça tout de suite. En tout cas, Raphaël et Anne, merci beaucoup d'être venus sur le plateau aujourd'hui pour parler de Vodjao. On rappelle, samedi 28 avril, à l'église des Bondons, organisé par le foyer rural, à 18h.
Merci. Eh bien, merci à vous. Ouais.
Voilà. En tout cas, mon auditeur, auditrice, je vous donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle matinale. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Et puis, je vous dis à dans deux jours. Ciao à tous.